Pour une 8e saison de suite, il est de retour au Québec avec le Globe de Cristal. Michael Kingsbury est avec nous. Salut, Michael.
Salut, ça va?
Comment ça va, toi?
Super bien.
Le King des boss, incroyable. 8e saison de suite avec le Globe de Cristal. Est-ce qu'on se tanne à un moment donné de gagner ça?
Non, on se tanne pas, mais non, je capote. Là. C'est fou un peu. Ça fait 8 années en ligne que je gagne le Globe de mon sport. Et le gros, je suis rendu à 16, je me rapproche de Lindsey Vonn tranquillement. Là.
Et le gros, il faut expliquer, le gros c'est le cumulatif de tout ce qui est ski acrobatique, tu as slopestyle, le ski cross,
exactement.
Tout ça. Et là, on a décidé de ne pas te le donner immédiatement, malgré le fait
parce que c'est pas terminé, okay. Mais je vais le recevoir par la poste. Comme il y a 2 ans aussi, il avait fait la même chose. Vu que notre saison a fini un peu plus tôt que les autres, je vais le recevoir plus tard, mais c'est confirmé que je l'ai gagné.
As-tu toujours du fun? Parce que là, tu gagnes, tu fais que gagner toujours?
Ouais, non, j'adore gagner, c'est le fun, mais c'est pas facile. Ça paraît facile, peut-être, ce que le monde voit dans les journaux. Exemple, les titres Kingsbury a encore gagné, blablabla. Mais je pense qu'il faut venir voir live pour voir comment il y a de la compétition, comment c'est fort, puis comment il faut que je me batte jusqu'au bout pour vraiment pour gagner ces globes-là ou ces victoires-là.
Qu'est-ce qui fait que toi, t'es meilleur que les autres?
Je sais pas ce qui fait que je suis meilleur que les autres. Je pense que c'est la passion. Je parle, moi, ça me drive. À l'année longue, l'été, je regarde des vidéos, j'analyse plein de choses, puis j'adore compétitionner. Je pense que j'aime les moments de stress. Ce que je m'ennuie durant la off-season l'été, c'est être en haut d'un parcours, puis avoir comme la pression, puis la patate qui pompe pour avant de skier une descente ou que tu sais que tu t'en vas te battre pour un titre mondial ou une médaille olympique. Moi, c'est ça, puis je suis capable de briller dans ces moments-là. C'est vraiment, je carbure à la pression.
Quelle est ta plus grande compétition, Michael? Est-ce que ce sont les adversaires qui sont contre toi ou en fait, toi contre toi, parce que t'es le meilleur? Est-ce que la compétition est contre toi-même?
Ouais, ben, d'après moi, je suis mon plus grand adversaire parce que, bon, si je calme me battre à chaque fois, mes descentes vont devenir de meilleures en meilleures, puis je peux m'améliorer vraiment en essayant de me battre. Mais en même temps, la compétition est vraiment forte aussi. Tu sais, il y a un Japonais qui est solide, un Français, un Australien. J'ai des coéquipiers extraordinaires aussi qui me poussent à chaque jour. Mais il y a beaucoup des courses que cette année, j'ai utilisées comme stratégie de vraiment focusser sur moi-même, puis focusser sur ma descente, puis truster le plan que j'ai avec mes entraîneurs, mes préparateurs. Je sais que quand je suis mon plan, puis j'essaie de pas trop m'occuper de mes compétiteurs, je suis capable de faire des descentes qui sont incroyables, puis... Quand je me bats, ben souvent, ça finit avec des médailles d'or.
Non, mais raconte-nous, là, tu dis, je me fixe un plan. Comment on fixe un plan, là? Nous, on voit ça. Écoute, tu descends là-dedans, tu fais des sauts, 360, tu sais, c'est assez exceptionnel. Comment tu arrives à bien définir un plan pour que tu sois efficace pour toi-même?
Ben, premièrement, j'ai une très grande équipe, une bonne équipe autour de moi, qui part de mes entraîneurs, entraîneurs de saut, entraîneurs physiques, à préparateurs mentaux. Tout le monde, en fait, qui sont autour de moi. Puis durant l'été, on vient avec des plans, on regarde beaucoup de vidéos, puis on essaie de trouver des moyens que je peux améliorer mon ski, ma technique de ski qui va faire que je vais être plus rapide, qui va faire que je vais être plus efficace pour ralentir, m'entraîner bien physiquement pour avoir un meilleur pop au bout du saut, pour que mes départs soient plus efficaces. En fait, quand j'arrive en compétition, tout soit plus facile. Puis en course, ben vraiment, c'est la stratégie avec mes coachs. On arrive, on voit le parcours, on l'étudie comme il faut. Souvent, je vais dessiner le parcours pour savoir sont où les petits détails, les choses qui sont mes points d'accélération, où que je dois ralentir, où que je dois atterrir. Si jamais il y a un compétiteur qui fait telle descente, comment que je peux essayer d'aller le dépasser ou est-ce que je peux être plus efficace que lui pour aller chercher du temps. C'est tous ces petits détails-là que je fais qui font la différence au bout de la ligne, qui font que quand j'arrive en haut du parcours, mon équipe m'a bien préparé, je suis en santé, j'ai pas mal nulle part, je peux vraiment focusser à faire ma descente puis focusser sur moi-même et non sur dire est-ce que j'ai fait ça de bien puis avoir des doutes dans la tête. En fait, j'arrive en haut, je suis prêt puis j'ouvre la machine.
Mais alors, raconte-moi, Michael Kingsbury, tu es en train de me dire que tu dessines le parcours?
Ouais, je dessine les parcours. Ouais.
Attends, explique-moi, qu'est-ce que tu fais?
Ben, en fait, j'arrive.
Tu regardes, tu vois le parcours, tu dessines puis là, tu te fais une stratégie après? Comment tu fais?
En fait, souvent, ce que je fais, c'est après la première journée d'entraînement, je vais m'entraîner toute la journée. Puis je vais apprendre le parcours, je vais choisir ma ligne. Fait que je vais me déplacer de ligne en ligne. Puis quand je trouve le parcours que moi j'aime, que je me vois gagner dedans ou que je me vois faire la performance que je veux dedans, ben le soir après l'entraînement, après une petite session au gym puis une petite séance de massage, je prends mon petit calepin puis je dessine un peu le parcours vu d'en bas puis vu de mes yeux. Comme ça, je connais un peu les détails. Puis exemple, il y a des boss des fois qui sont un peu plus sharp, qui sont un peu plus renfermés. Puis là, je dessine un peu où ce que je passe mes skis, à quel endroit je dois m'aligner sur les sauts, parce que les sauts sont pas toujours alignés en ligne droite. Des fois, il faut que tu décales un peu vers la gauche, des fois un peu vers la droite. Donc, je me marque des petites notes. C'est vraiment difficile à comprendre si t'es pas un skieur ou si t'es pas dans ma tête. Mais moi, je comprends ce que je fais. Puis ça fait, pour moi, ça me fait juste une visualisation de plus, okay, ou comme un entraînement de plus qui fait que le lendemain, quand j'arrive à la deuxième journée de training, je peux être deux fois plus efficace. J'ai besoin de faire moins de descentes, donc je garde mon énergie. Puis quand j'ai fini encore ma deuxième journée d'entraînement, je retourne dans mon petit calepin, j'arrange des petites choses. Puis quand j'arrive à la journée de la course, ben je connais le parcours mieux que tout le monde.
Ben, ça va bien parce que les parcours sont sensiblement toujours le même. C'est toujours la même chose de compétition en compétition.
Ouais, c'est toujours un peu la même chose. Il y a toujours deux sauts, des bosses entre le milieu, mais les bosses sont toujours différentes. Ça évolue de jour en jour. Plus tu passes dedans, plus que ça grossit. Puis on course partout dans le monde, donc il y a des qualités, des types de neige vraiment différentes. Souvent en Finlande, c'est dur, c'est du béton, c'est comme de la glace. En Chine un peu aussi. Tu arrives au Japon, en fin de saison, c'est de la slush. Au Kazakhstan, c'est un type de neige différente. Au Utah, au Colorado, c'est de la neige plus molle. Donc, il faut que tu t'adaptes à chaque type de neige. Puis, non, c'est le fun.
Et tu me racontais que il y a des pays, chaque compétition a des pays, donc, qui vont faire les sauts en conséquence. C'est eux qui sont chargés de faire les sauts. Raconte-moi un peu comment ça se passe.
Ouais, ben, en fait, quand tu arrives à une Coupe du Monde, exemple, on course au Japon, comme je t'expliquais plus tôt. Le Japon, l'événement, vont construire le parcours. Puis après ça, ils vont tirer une pige en début de saison ou avant la course pour savoir qui va être les personnes qui vont vraiment shaper le jump, en fait, qui vont créer le kick qui va faire en sorte qu'on va sauter, puis savoir comment à la hauteur on va aller. Puis exemple, ça peut être les Russes qui font le saut du haut, puis les Américains qui font le saut du bas, mais la manière qu'ils vont former les jumps, c'est vraiment différent. Tu peux arriver sur un saut du haut construit par les Russes qui est petit et vraiment kické, puis un saut du bas fait par les Américains qui est plus gros et plus plat. Donc, tu dois ajuster tes stratégies de saut selon ça, des fois. Il y a des règles qu'ils ont à respecter, mais ils ne respectent pas nécessairement tout le temps. Donc, des fois, tu arrives en course, tu dis, hey, au Japon l'année dernière, on sautait tellement gros, ça allait vraiment bien. Puis, tu arrives là-bas, puis de la manière qu'ils ont construit les sauts, ben, il faut que tu changes tes stratégies de saut. Même si tu as fait ces sauts-là, puis tu as gagné les deux, trois Coupes du Monde avant, tu arrives là, puis tu fais, hey, c'est dommage, mais je ne peux pas les faire ici à cause que les sauts ne me le permettent pas. Fait que là, tu trouves d'autres stratégies. Puis ça rend ça le fun parce qu'ils ne rendent pas les pistes faciles tout le temps.
J'imagine, si moi je suis Canadien, chargé de m'occuper des sauts, je vais faire des sauts en conséquence qui vont vous avantager. Est-ce Exactement. Que les autres pays font ça aussi?
Ben, il y a eu des fois que ça a été différent. Tu vois, aux Jeux olympiques de Sochi, moi puis Alex Bilodeau, on faisait vraiment les plus gros sauts. On faisait double fois les 1080. Puis on s'en attendait un peu que les Russes allaient construire une piste qui allait être difficile pour nous parce que le gars qui était troisième au rang mondial à ce moment-là, c'était Alexander Smichliev, qui est un Russe. Puis lui, il faisait des plus petits trucs que nous, mais c'était un excellent skieur. Donc, ils ont construit la piste un peu avec des bosses très serrées et collées sur les sauts, avec des petits, petits sauts pour faire en sorte que moi et Alex, on soit pas capable de faire notre quotient de difficulté le plus difficile.
C'était contre vous, en fait, qu'on les faisait.
Oui, c'est un peu contre nous, mais en même temps, c'est ils sont dans leur terrain, ils sont chez eux, puis ils veulent pas que deux Canadiens viennent voler leur médaille. Mais finalement, moi et Alex, on s'était bien entraînés en conséquence pour faire en sorte qu'on allait être capable quand même de faire nos gros sauts. Puis tu vois, au bout de la ligne, ils ont terminé troisième, puis on a fait un et deux.
Tu te rends compte que t'es le gars que tout le monde veut battre. Comment tu négocies avec ça?
Ben, j'adore la position que je suis. C'est une position, c'est sûr qu'il y a toujours un peu plus de pression. Tout le monde, à chaque événement que je fais, je sais que les caméras sont toujours braquées sur moi de tous les pays. Tu sais, quand je pousse dans le départ, j'entends les entraîneurs qui sont en haut du parcours des autres pays dire Kingsbury ou BIM number one on course. C'est le fun, mais tu sais, ouais, je sais que j'ai une grande cible dans le dos. Tout le monde veut me battre, tout le monde veut prendre les bouchées d'eau, mais c'est ce qui est motivé en même temps. Tu sais, l'été, quand je m'entraîne, je sais que le petit japonais ou le français, il s'entraîne super fort à la maison. Donc, je sais pas, c'est le fun d'être dans ma position.
Fait que tu sens que t'as pas le choix de continuer. Pour toi-même et parce que la compétition devient de plus en plus
ouais,
féroce.
Ben, tu sais, j'adore ça, m'entraîner. J'adore le processus de l'été, de faire toutes les choses, puis d'améliorer les choses, puis arriver à prendre la Coupe du Monde, puis vraiment montrer à tout le monde que je suis encore là à battre. Mais ouais, c'est une belle position. Je pense que c'est la position que tout le monde va être dedans. Ça vient avec d'autres responsabilités, ça vient avec plus de pression, autant des médias que des commanditaires, que de tout le monde autour. Mais en même temps, c'est je carbure un peu à ça, puis c'est ce qui fait que je suis l'athlète que je suis présentement.
Et comment tu négocies justement avec ça, la pression médiatique, bon, disons la popularité? Comment tu te sens, toi,
ben,
avec ça?
C'est pas trop mal. Je joue pas pour les Canadiens de Montréal, donc j'aurais jamais un peu ce feeling-là. Mais j'ai un peu à Pyeongchang, j'avais quand même beaucoup de pression, parce que c'était l'or ou rien. Je lisais des articles que c'est ma médaille d'or à gagner ou ma médaille d'or à perdre. Quand Sport Illustrated te montre dans leur top de leur classement de c'est qui l'athlète qui a le plus de chances de gagner une médaille d'or de tous les Jeux. C'était mon nom qui sortait. C'est sûr, ça avait qu'une pression. Tu sais, le soir, avant de te coucher, pour le plus gros événement, tu te couches puis tu te dis « Qu'est-ce qui arrive si je finis deuxième ou je rate le podium? » Puis t'as peur un peu de décevoir tout le monde qui t'ont aidé. Mais j'ai tellement fait une belle comme pratique ou entraînement à toutes ces choses-là avec mon préparateur mental, à vraiment être capable de focusser sur ma descente, puis pas focusser sur les résultats, sur ce qui peut arriver au jeu, vraiment être dans mon monde à moi. Puis on avait une excellente stratégie à Pyeongchang pour arriver puis en haut du parcours. Puis de descente en descente, j'étais de moins en moins stressé, puis j'étais arrivé pour ma super finale, puis j'étais où ce que je voulais être au bon moment, puis j'ai réussi à faire la descente que je voulais, puis j'ai gagné l'or.
Michael Kingsbury, on va faire une courte pause. C'est quand même une saison assez incroyable. 7 victoires, 8 podiums, 9 courses lors de la Coupe du Monde, 2 titres de champion du monde. Et là, la question, c'est est-ce possible d'avoir une saison parfaite, de toujours être le premier? On fait une courte pause. Au retour, on poursuit cet entretien avec Michael Kingsbury. On est de retour aux amateurs de sport. C'est Michael Kingsbury, le King des Boss, qui est avec nous. Michael, écoute, on parlait avant d'aller à la pause d'une possible saison parfaite, c'est-à-dire 11 courses, 11 victoires. Est-ce que ça, c'est un objectif pour toi?
Pas vraiment. En fait, j'essaie de pas le voir
fait,
demain.
C'est une zone qui fait du cinéma avec ça.
C'est de la pression un peu, ça. 11 courses. Écoute, c'est faisable. J'ai passé proche cette année, l'année dernière, quand même près aussi. Mais j'aime ça voir. Tu sais, comme j'y vais une course à la fois, une descente à la fois. C'est difficile de dire est-ce que l'année prochaine, je vais gagner les 11 en ligne. C'est faisable. J'ai déjà gagné 13 Coupes du Monde en ligne, mais pas une saison parfaite. Mais si je vais une à la fois, puis les choses vont bien, il faut pas que je me blesse. Faut que y a tellement de détails, c'est tellement long une saison, ça passe vite. T'sais, c'est du début décembre à mi-mars, puis c'est terminé. Mm-hmm. Mais il y a comme trop de choses. Fait que c'est ça serait le fun. Je serais le premier à faire ça. J'ai déjà fait des saisons juste avec des podiums, ce qui est déjà très, très, très difficile à faire. Mais ouais, une saison juste de victoire, on va voir.
Et d'autant plus que là, cette année, tu as amené un nouveau saut. T'as fait, ouais. Je me souviens, on avait une conversation, à un moment donné, tu disais, je me réserve ça, j'ai un saut spécial. Un moment donné, je serai en mesure de sortir ça. Tu l'as fait cette année. Ouais. Est-ce que tu prévois le refaire ou en faire un nouveau?
Ben, en fait, c'était drôle, cette course-là. En fait, au Japon, il y a 2 semaines, je pensais même pas le faire là-bas. Puis c'est comme un concours de circonstances qui ont bien à donner. J'ai pas entraîné de mes 2 journées d'entraînement. J'ai même pas pensé de le faire jusqu'à ce que je gagne les qualifications le matin au Japon. Puis c'est mis à faire beau. Puis en entraînement, j'ai dit je vais en essayer un. Ça fait depuis cet été je l'ai pas fait. J'en fais un en entraînement. Puis si j'atterris, on s'en reparle là, avec mes coachs. Puis je le fais en entraînement, je l'atterris. Puis là, je fais OK, c'est faisable de le faire. Fait que je fais, OK, si je le fais, je le fais en super finale pour ma dernière descente. Donc, je me dis aussi, j'ai pas envie de partir le dernier puis le faire en dernier. Mm-hmm. Parce que je sais que si je le fais, le Japonais va le faire. Fait que je m'arrange pour faire juste une belle finale pour me mettre dans le top 6 et non premier. Je me qualifie 2e. Puis lui qui était juste derrière moi au classement mondial français, il finit 16e. Donc, tout était comme parfait pour l'essayer. Puis je l'ai eu, puis après ça, le Japonais l'a essayé juste derrière moi, puis il est tombé. Puis on a fait un doublé canadien avec Philippe Marquis, donc ça a été vraiment une belle expérience d'essayer un nouveau saut, de monter sur le podium avec Phil pour une dernière fois, faire un doublé canadien. Puis le lendemain, en duel, je gagne tous mes duels, j'arrive en finale contre le Japonais, puis la dernière minute, quand j'arrive dans le portion de départ, je dis à mon coach, je dis, je l'essaye, j'ai un bon feeling, puis... Quand j'ai des bons feelings de même, c'est rare que ça arrive, des gros, gros feelings qu'il faut que je m'écoute. Puis je l'ai fait, je l'ai atterri, puis j'ai battu le Japonais. Puis lui, il n'a jamais su que j'allais faire ça. Puis je l'ai comme un peu surpris dernière minute.
Dis-moi, l'année prochaine, Philippe Marquis ne sera pas là. C'est vraiment, on peut dire, je pense que c'était le leader de l'équipe canadienne, avait un peu ce rôle-là. Là, ça va être toi vraiment qui va prendre cette fonction-là.
Ouais.
Comment toi, tu composes avec ça?
Ben, j'ai eu des bons modèles, comme des gars comme Pierre-Alexandre Rousseau, Vincent Marquis, Phil Marquis, Puis maintenant, c'est comme... C'est un peu à mon tour à... C'est comme si Phil il me donne le flambeau ou le C du capitaine. Phil était un exemple pour moi, tu sais, autant sur les pistes qu'en dehors des pistes. C'est un extrêmement bon leader. Il donne vraiment un bon exemple d'entraînement aux plus jeunes. Puis à moi, quand j'ai commencé sur l'équipe, ça faisait déjà 2 ans qu'il était sur l'équipe, puis il m'accueillait les bras grands ouverts. Donc après ça, c'est à moi à faire ça un peu. T'sais, c'est drôle parce que j'ai toujours l'impression que j'étais un des jeunes, puis du jour au lendemain, tu cliques des doigts, puis t'es le gars qui est quasiment le plus vieux de l'équipe. À partir de l'année prochaine, je vais être le gars le plus vieux de l'équipe canadienne. Donc ouais, non, c'est spécial, mais j'ai hâte d'être dans ces nouvelles chaussures-là. Ça, je pense que ça va être le fun. Il y a plein de jeunes qui arrivent sur l'équipe qui vont être des prochaines stars sur les Coupes du Monde. Puis comme un peu Bilodeau l'a fait, comme Jean-Luc, je vais passer mon flambeau pour un nouvel athlète qui va dominer pour garder cette legacy de Québécois-là qui performe dans notre sport sur l'échelle mondiale.
Est-ce que le mot « retraite » a déjà croisé ton esprit une fois ou deux?
Oui puis non, mais pas de suite. C'est sûr que je vais me rendre jusqu'à 2022. Je sens que j'ai encore des belles années dans moi. Je suis encore en pleine forme. Je suis super léger. On dirait que je suis encore dans mon corps de petit gars de 18 ans. Puis j'adore ce que je fais. Donc, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Puis on verra après 2022. On va voir je suis rendu où dans ma carrière de skieur, dans ma vie privée, ce que j'ai envie de faire. Puis... Je vais foncer à 100% si je veux continuer.
Là, Michael Kingsbury, rassure-nous. Là, on le sait que tu es un champion 8 années consécutives avec le globe, les 2 globes de cristal. Tu es un gars normal. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes pas, j'imagine? As-tu du fun? Qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas de fun.
Tu regardes pas juste des vidéos de course, j'imagine?
Non. Je vais me reposer. Je vais essayer de reprendre sur tout ce que j'ai raté avec les histoires, avec mes amis. Juste vivre la vie d'un gars de 26 ans normal. C'est... J'ai la chance d'être à la maison, être en vacances à Montréal, profiter de la ville, puis de voir ma famille, puis m'entraîner un petit peu juste pour garder la forme parce que j'aime ça. Mais sinon, faire plein d'activités. Peut-être aller en vacances à quelque part, je sais pas encore.
Un peu d'hockey du Canadien avec ça?
Oh oui, je vais essayer d'aller voir des games. Si jamais vous avez des tickets, je suis preneur.
Bon, faites plaisir, on va regarder ça. Michael Kingsbury, je te dis un gros merci d'avoir pris du temps pour nous.
Merci beaucoup, c'est gentil.